de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos. Comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. BDF encourage le leadership et la solidarité pour faire face aux défis de la démocratie. La démocratie doit être défendue et renforcée, a affirmé le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. En 15 ans, BDF devient le principal forum de discussion sur la démocratie. L'OIT déclare que les humains doivent être au centre de la reprise post-pandémique. Le Forum pour l'éducation des femmes afghanes produit un message de Bali. WWF encourage le commerce de l'huile de palme durable entre l'Indonésie et la Chine. Voici le journal complet. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a officiellement ouvert le 15e Forum de la démocratie de Bali, BDF, jeudi 8 décembre à Nusa Dua, Bali. Dans son allocution, la ministre Retno a déclaré que le 15e Forum de la démocratie de Bali avait pour thème la démocratie dans un monde en mutation, leadership et solidarité. Un certain nombre d'institutions internationales ont signalé qu'une démocratie en déclin est stagnante. Selon la ministre Retno, ce thème est pertinent pour la situation mondiale qui fait face à des défis pour la démocratie. Pour faire face à ce défi, un leadership collectif et une solidarité mondiale forte et efficace sont nécessaires. La présidence indonésienne du G20 montre qu'un leadership et une solidarité très forte sont nécessités par le monde en ce moment. Les valeurs démocratiques telles que l'inclusivité et le dialogue sont devenues le guide de l'Indonésie dans la conduite de la présidence du G20, de sorte que les résultats étaient bons dans un contexte de pessimisme élevé à l'époque. Le 15e Forum de la démocratie de Bali s'est tenu de manière hybride et a réuni 323 participants de 12 pays et 5 organisations internationales. Le Forum sur la démocratie de Bali se déroule en deux sessions, à savoir un accès juste et équitable aux biens publics ainsi que des efforts pour former la gouvernance dans un nouveau paysage mondial au milieu de défis à la démocratie. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que la démocratie est en déclin et doit être défendue et renforcée. Cela a été dit par Antonio Guterres lors de la transmission d'un message par enregistrement vidéo à l'ouverture du 15e Forum de la démocratie de Bali à Nusa Dua, Bali, jeudi. Il a également souligné l'importance de promouvoir l'état de droit et le caractère universel de tous les types de droits fondamentaux de l'homme, y compris les aspects économiques, sociaux, politiques, civils et culturels. En outre, il a également remercié le gouvernement indonésien d'avoir organisé le Forum sur la démocratie de Bali. Au cours de ses 15 années d'existence, le Forum de la démocratie de Bali, BDF, a activement promu le processus d'apprentissage partagé de la démocratie avec le gouvernement. Cela a été transmis par le directeur général de l'information et de la diplomatie publique du ministère indonésien des Affaires étrangères, Tengku Faizasha, lors de la clôture du 15e BDF à Nusa Dua, Bali, jeudi. Selon lui, BDF continue de construire des initiatives pour promouvoir la démocratie qui ne cesse de croître.
In reference to that statement, I would say that the BDF process has made positive contribution.
Le processus BDF a apporté une contribution positive, en particulier pour assurer la mise en œuvre de la démocratie. BDF s'est positionné comme un forum de premier plan pour discuter et échanger des expériences dans la promotion de la démocratie dans la région Asie-Pacifique. Tengku Faizasha a en outre exprimé son appréciation pour le sentiment d'appartenance croissant à la BDF de chaque participant. Selon lui, cela pourrait encourager le développement d'une architecture démocratique dans la région. Tengku Faizasha a déclaré que l'année prochaine, le gouvernement indonésien se concentrera sur le suivi et l'évaluation de toutes les recommandations et propositions d'action produites par le BDF. L'Organisation internationale du travail, OIT, exhorte ses pays membres à placer les humains au centre des efforts de rétablissement post-pandémique de COVID-19. Selon le chef de l'unité de l'Organisation internationale du travail en charge des entreprises multinationales et de l'engagement des entreprises, Gita Rulang, la COVID peut être considérée comme une impulsion à la réflexion sur l'ancien modèle économique, même s'il génère beaucoup de richesses, mais en même temps provoque l'inégalité. Gita, lors d'une conférence de presse en marge de la 17e réunion régionale Asie-Pacifique de l'OIT, à Singapour, jeudi 8 décembre, a déclaré que la COVID était une alarme pour que le monde atteigne les objectifs de développement durable de 2030, compte tenu du fait que de nombreux pays ne sont pas sur la bonne voie pour atteindre ces objectifs très ambitieux. Le Forum de conférence internationale sur l'éducation des femmes afghanes, qui s'est tenu à Nusa Dua, Bali, a produit jeudi un document de déclaration conjoint appelé « Le message de Bali ». La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré lors d'une conférence de presse après le forum que le forum de soutien à l'éducation des femmes en Afghanistan est organisé par l'Indonésie et le Qatar. Le forum comprenait 38 pays, 4 organisations internationales, 9 ONG et entreprises ainsi que 9 personnalités féminines importantes et universitaires. Retno Marsudi a ajouté que dans le message de Bali, les femmes et les filles étaient également mentionnées comme la clé du développement, de la paix et de la prospérité en Afghanistan. Garantir une participation équitable, pleine et significative des femmes à la société ouvrira un espace pour que les pays réalisent son potentiel. L'Organisation de surveillance environnementale au Fonds mondial WWF encourage le commerce de l'eau durable entre l'Indonésie et la Chine, car il a un volume relativement grand et a un impact sur la durabilité de la production agricole et à l'environnement. Le directeur exécutif du WWF Indonésie, Aditya Bayunanda, a déclaré jeudi lors du dialogue Chine-Indonésie sur l'île de Palme à Jakarta que la Chine est l'un des plus grands marchés pour les exportations d'huile de palme indonésienne, contribuant à 17,7% des exportations totales de l'huile de palme brute CPO. Par conséquent, le WWF encourage les exportations d'huile de palme et de ses dérivés de l'Indonésie vers la Chine à utiliser des produits à base d'huile de palme qui mettent en œuvre des principes durables. Le WWF espère que les produits à base d'huile de palme et leurs dérivés exportés vers la Chine pourront obtenir la certification ISPO ou même RSPO qui est couramment utilisée au niveau international. C'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Oh,
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée Dina Boluarte, prête serment en tant que première femme présidente du Pérou. Vous êtes avec moi, Audrey. Chargée d'État, mercredi dernier, Dina Ercilia Boluarte Segarra a officiellement pris ses fonctions de nouvelle présidente du Pérou après que l'ancien président Pedro Castillo a été destitué quelques heures après avoir tenté de dissoudre le Parlement. Dina Boluarte, qui était auparavant vice-président, a prêté serment en tant que présidente après une journée dramatique à Lima, la capitale du Pérou. Boluarte est devenue la première femme présidente de l'histoire du pays. Avant sa destitution, l'ancien président Castillo avait déclaré qu'il remplacerait le Congrès par un gouvernement d'urgence extraordinaire qui, selon lui, visait à rétablir l'état de droit et la démocratie. Selon Castillo, un nouveau Congrès doté de pouvoirs constituants pour rédiger une nouvelle constitution serait formé en 9 mois au maximum. Cependant, le Congrès, qui est contrôlé par des partis opposés à Castillo, a tenu une session d'urgence suivie d'un vote de destitution que Castillo a tenté d'empêcher. Le Congrès a accusé Castillo de mutinerie puis arrêté. Selon les médias locaux, Castillo a été arrêté alors qu'il se rendait à l'ambassade du Mexique dans la capitale Lima. Le Pérou a traversé une période politique difficile avec de nombreux présidents évincés de leurs fonctions ces dernières années. Castillo, un ancien professeur d'école de gauche, a été élu en juin 2021 lors d'une élection polarisante au cours de laquelle il a battu son rival de droite Keiko Fujimori. Il a récemment combattu des accusations de corruption qui, selon lui, font partie d'un complot visant à le renverser. Castillo est devenu le troisième président depuis 2018 à être démis de ses fonctions en vertu de la disposition moralement incapable de la Constitution. Pendant ce temps, la présidente Dina Boluarte a déclaré lors de son sermon qu'elle régnerait jusqu'en juillet 2026, date à laquelle la présidence de Castillo devrait prendre fin. Dans son sermon, Dina Boluarte a déclaré qu'elle assumerait fidèlement la fonction de présidente, conformément à la constitution politique du Pérou. Après avoir prêté serment, Boluarte a appelé à un cessez-le-feu politique pour faire face à la crise qui sévit dans le pays. Espérons que le nouveau gouvernement péruvien, dirigé par une femme présidente, sera en mesure de surmonter la crise politique qui sévit dans le pays depuis 2016. Aussi la crise économique et la hausse des prix causée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Bon, Serge Guitard, c'est tout le commentaire.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 9 décembre 1945 est la bataille de Bojongkokosan. Bojongkokosan est le nom d'un village du sous-district de Parungkuda, la région de Sukabumi, dans la province de Java West. Le 9 décembre 1945, dans le village, il y a eu une bataille entre les habitants de Sukabumi contre un bataillon de soldats britanniques, Gurkha et Hollandais, qui était en convoi vers la ville de Bandung. La bataille de Bojongkokosan a tué des dizaines de soldats alliés et de combattants Sukabumi ainsi que de centaines de civils. La bataille a également été l'un des facteurs de l'incident de la mer de feu de Bandung le 24 mars 1946. Le 9 décembre 1947 est le massacre de Rawa Gede. Le massacre des habitants du village de Rawa Gede, qui s'appelle maintenant le village de Balong Sari, Rawa Merta Karawang dans la province de Java occidentale a été perpétré par l'armée coloniale néerlandaise le 9 décembre 1945. Ils sont entrés dans le village de Rawagede pour arrêter un combattant de la liberté qui s'appelle Capitaine Lucas qui se cacherait dans le village. Ils ont rassemblé des résidents masculins d'environ 14 ans sur le terrain. Un par un, on leur a demandé où se trouvait le capitaine Lucas, mais personne ne le savait, parce que ses réponses ne satisfaisaient pas les soldats néerlandais. Puis exécution après exécution a eu lieu dans un endroit à un autre endroit. L'incident a tué 431 civils de Rawagede. Le 14 septembre 2011, le tribunal de la Haye a déclaré que le gouvernement néerlandais devrait être responsable et verser une indemnisation pour le massacre de Rawagede. Le 9 décembre 1987 est la première intifada palestinienne. La résistance ou la première intifada du peuple palestinien contre l'occupation israélienne de la Palestine a débuté le 9 décembre 1987 dans le camp de réfugiés de Jabalia qui s'est rapidement propagé à Gaza, Cisjordanie et Jérusalem orientale. On estime que 164 Israéliens ont été tués par des combattants palestiniens et 1100 Palestiniens tués par des soldats israéliens. Au moins 1000 Palestiniens ont également été tués par des Palestiniens eux-mêmes parce qu'ils étaient accusés de soutenir Israël. Cette rébellion a pris fin en 1992. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Rusakah bila ada rasa menyimpan kekaguman ini padamu? Saat sudah ada dia yang beri senyuman di hari-harimu, bukan salahku cinta hadir tak menentu. Karena cinta tak pernah salah, anda bisa pula. bersama.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers amis de l'antenne, pour la rubrique suivante, voici donc Mon Indonésie et pour le titre... L'Indonésie a ajouté une contribution au forum AIS jusqu'à 5 millions de dollars américains cette année. Le gouvernement indonésien s'est engagé à augmenter la contribution des fonds pour financer le programme du forum des États archipélagiques et insulaires AIS jusqu'à 5 millions de dollars américains ou environ 77,6 milliards de roupies en 2022. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Coordination des Affaires maritimes et de l'Investissement, Luhut Binsar Panjaitan, lors de l'ouverture de la 4e réunion ministérielle du Forum AIS à Nusa Dua, Bali, mardi. Cité par l'agence de presse Antara, Luhut Panjaitan a expliqué que les fonds étaient destinés à financer les programmes du Forum AIS pour les 5 prochaines années. Luhut Panjaitan espère que les mesures de l'Indonésie pourront être suivies par d'autres membres du Forum AIS qui se compose actuellement de 47 pays. La majorité des membres du Forum AIS sont des pays à revenus faibles ou intermédiaires, mais certains d'entre eux sont des pays développés comme le Royaume-Uni et le Japon. À la même occasion, le ministre coordinateur Luhut en tant que co-président de la réunion avec la ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi et le ministre des Affaires maritimes et de la pêche Sakti Hoyotronggono a annoncé que l'Indonésie s'était également engagée à augmenter sa contribution au forum AIS jusqu'à 3 fois. Cependant, il n'a pas mentionné les détails du montant et quand les fonds seraient distribués au forum AIS. Le Forum AIS est une association de pays insulaires et archipels initiée par l'Indonésie depuis 2017. Le Forum a été officiellement formé en 2018 à Manado, dans le nord de Sulawesi, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD. Depuis sa création en 2018, les pays membres du Forum AIS organisent régulièrement des réunions pour leurs hauts fonctionnaires SOM et des réunions au niveau ministériel MM. Cependant, la réunion a été interrompue en 2021 en raison de la pandémie de COVID-19. Pour la réunion de cette année, le Forum AIS a réuni des représentants de 21 pays et de 2 organisations internationales. 5 pays étaient représentés directement par leur ministre, tandis que les autres par de hauts fonctionnaires. Le ministre indonésien des Affaires maritimes et de la pêche, Sakti Hoyotronggono, a présidé la 4e réunion ministérielle du Forum des États archipélagiques et insulaires AIS sur le thème « Améliorer les collaborations du Forum AIS pour un océan durable et sain ». Sans retard, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Yeah. it beats when I first saw you. Reminiscing by the second when we first locked gazes. Got the feeling that you can't explain with phrases, yeah. I should probably get away now, cause I think Mars gonna burst, yeah. You're the first, wow. Don't believe in love, but I might think twice. Hope you get the code, my first love, it's you.
You coba selalu mendekat. Berikan semua perhatian. Menunggu adakah tandaku untuk menjadi, yeah, untuk menjadi.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, auditeurs, spectatrices, spectateurs de la Voix de l'Indonésie, bonjour. Aujourd'hui, vous êtes avec moi, Audrey. Et cette fois, avec moi, via la connexion Zoom, il y a l'ambassadeur du Royaume du Maroc, Son Excellence Wadia Ben Abdellah. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur.
Bonjour, c'est Audrey. How are you? Comment allez-vous?
Je vais bien, merci, monsieur. Et vous, monsieur?
Très bien, très content. Très content d'être avec vous. Très content d'être avec les spectateurs de Voice of Indonesia. Mm-hmm. C'est un plaisir de vous retrouver encore. Merci de me donner cette opportunité de communiquer avec mes chers amis indonésiens.
D'accord, d'accord. Premièrement, monsieur l'ambassadeur, avant de commencer, je voudrais vous féliciter d'abord la communauté marocaine n'importe où et en particulier l'équipe de foot marocaine qui a le titre, si je ne me trompe pas, les Lions de l'Atlas, n'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur,
oui.
Qui ont réussi d'arriver dans les quarts de finale. Félicitations, monsieur.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Et je crois que vous ne devez pas féliciter les Marocains et l'ambassadeur du Maroc. Vous devez féliciter tous les Arabes, tous les musulmans, tous les Africains et tous les Asiatiques qui aujourd'hui, leur équipe, c'est l'équipe du Maroc. Et donc, vous les félicitez tous. Et moi, je vois à travers tous les pays que je vois, on a des images d'un peu partout dans le monde. On a le support et c'est ce qui fait plaisir de ce qu'on disait petite équipe, finalement, qui joue dans l'arène des grands et qui montre qu'il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands. Il y a des joueurs, il y a des combattants qui sont là pour le football et pour le sport. En tout cas, merci beaucoup à l'Indonésie, aux supporters indonésiens également.
Donc, oui, d'accord, monsieur, vous avez raison. Il faut féliciter, je crois que tout le monde qui aime le foot, je crois.
Absolument, parce que je crois que les gens, ils sont fatigués d'avoir toujours les mêmes équipes. Mm-hmm. Toujours les mêmes équipes qui jouent en huitième de finale, qui jouent les quarts de finale. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a une nouvelle équipe qui est là, une équipe, c'est la première fois dans l'histoire qu'une équipe arabe, musulmane, joue les quarts de finale. Et qu'une équipe est allée battre l'Espagne, elle est allée battre le Canada, est allée battre la Belgique, qui était la deuxième au classement FIFA, la deuxième au monde, qui a fait match nul avec la Croatie, qui était la finaliste de la dernière Coupe du Monde. Et donc, on est content de voir qu'il y a une équipe qui émerge. Nous avons toujours été une nation de football, mais jamais à ce niveau-là. Aujourd'hui, grâce au support de tout le monde, franchement, grâce au support de tout le monde, nous avons pu arriver. On va en parler durant l'émission. Merci beaucoup encore une fois.
Donc, monsieur l'ambassadeur, parlons de match précédent. Le Maroc a gagné lors de son match précédent contre l'une des meilleures équipes. C'est l'équipe espagnole, n'est-ce pas? Donc, tous les yeux étaient tournés vers l'équipe marocaine. Votre commentaire, monsieur l'ambassadeur?
Au début, quand nous avons démarré cette Coupe du Monde, beaucoup disaient, ils donnaient le Maroc comme quoi il allait tomber au niveau du premier tour. Il allait être éliminé au premier tour. Mais je crois qu'il y a eu un engouement, il y a eu une énergie interne chez les joueurs. Une énergie interne que vous avez vu le match, c'est une énergie interne qui faisait qu'ils jouaient avec leur cœur, avec leur esprit, avec tout ce qu'ils avaient en eux pour pouvoir rendre heureux. Et ils l'ont dit. Ils ont dit, nous voulons rendre heureux tous nos supporters à travers le monde. Donc, c'est comme s'ils voulaient rendre la fleur à ceux qui leur ont envoyé. Et ça a marché. C'est une alchimie, si je peux dire. C'est une alchimie qui a marché. Il y a un esprit d'équipe. Je crois qu'il a fait que le résultat était bon avec toutes ces équipes. C'est qu'il y a un esprit d'équipe. Il n'y a pas d'individualité. C'est un esprit d'équipe qui a gagné. Et avec un team, un entraîneur marocain qui était derrière et qui comprend exactement le feeling et le sentiment de ses joueurs. Et tout ça, tout ce mélange, il a donné jusqu'à présent ses résultats. Et j'espère de tout mon cœur, comme tous les supporters de l'équipe marocaine l'espèrent, que cela puisse continuer.
OK. Vous avez dit tout à l'heure, et comme on le sait, dans le match de classement du groupe F, hein, le Maroc a réussi à remporter le groupe, monsieur l'ambassadeur. Oui. Et le Maroc a fait match nul contre la Croatie, 0-0, c'est ça? Et
oui, oui.
A gagné contre la Belgique, 2-0. Et a gagné contre le Canada, 2-0. Quel tableau statistique extraordinaire! Selon vous, monsieur l'ambassadeur, quelle est la clé important et particulière du succès de l'équipe marocaine?
Non, je crois que franchement, cette année, nous avons fait plusieurs Coupes du Monde. Mais celle de cette année, elle se distingue par le fait que nous avons un entraîneur marocain qui a compris l'équipe, qui a pu en mettre en place en un temps court, parce qu'il n'est pas, il est entraîneur depuis moins d'un an. En un temps très court, il a pu mettre en place cet esprit d'équipe. Et là, c'est une leçon. Je crois qu'ils nous ont donné une leçon pour notre vie quotidienne, pour notre travail quotidien. Quand il y a cet esprit d'équipe, les résultats peuvent être excellents. Quand il y a des individualités, quand les joueurs arrivent sur le terrain en se disant « Moi, je suis la star de telle équipe internationale, moi, je suis la star de telle équipe européenne. » Et chacun essaie de se distinguer, le résultat est nul. Quand il y a cet esprit d'équipe, une équipe qui joue tout entière, où la star, ce n'est plus la personne, la star, c'est l'équipe. Ils ont eu ce réflexe, ils ont développé ce réflexe, et jusqu'à présent, ça réussit, alhamdoulilah.
Alhamdoulilah. Oui, vous avez raison. L'esprit de l'équipe, c'est très important. Monsieur l'ambassadeur, maintenant, nous parlons de hors de l'équipe. En parlant de football, à quel point le peuple marocain est-il fou, entre guillemets, je voulais dire, et quel type de soutien de peuple marocain a-t-il pour son équipe nationale?
Il y a une image. Il y a une image que les Marocains, auxquelles les Marocains s'habituent et qui est innée, qui est naturelle chez nous. Il y a deux jours, quand le résultat contre l'équipe d'Espagne, tous les Marocains à travers le monde sont sortis dehors. Et parmi les premières personnes qui sont sorties dehors, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui a pris sa voiture et il est installé directement au milieu de la foule, sans protocole, sans rien du tout. Il est allé au milieu de la foule, au milieu de son peuple, pour montrer sa joie et sa liesse. Le prince héritier, qui est un jeune de 18 ans, il est également sorti avec ses amis, qui est sorti également au milieu de la foule. C'est cette unité et ce sentiment de toute une équipe et de savoir qu'il y a tout un peuple sans aucune exception derrière elle. Et ça, c'est le premier niveau. Et le second niveau, et je vous assure que c'est une réalité, c'est de sentir qu'on a tout un, à travers le monde, toute nationalité qui nous soutient. Les uns, ils nous soutiennent parce qu'on est africain. Les autres nous soutiennent parce qu'on est musulman. D'autres nous soutiennent parce qu'on est arabe. D'autres nous soutiennent parce qu'on est une équipe qui n'est pas connue en tant que finaliste de la Coupe du Monde. Et quand on sent tout ce soutien, c'est une grande responsabilité. C'est un lourd fardeau. Et les joueurs ont tout fait pour répondre à ça. Mais pour revenir au Maroc, les Marocains, à commencer par notre roi, ont toujours soutenu leur équipe, quels que soient les résultats. Les résultats ne sont pas toujours bons. Mais même quand ils ne sont pas bons, dans le passé, dans d'autres compétitions, nous continuons à soutenir notre équipe. Il y a un esprit critique, c'est vrai, mais critique positive pour aller de l'avant. Et les résultats se font sentir. J'espère que ça continuera.
Incroyable, monsieur l'ambassadeur, c'est incroyable. En fait, le soutien de la communauté marocaine, c'est incroyable. Et pour leur équipe, joueur de l'équipe, n'est-ce pas?
Oui.
Donc, qui est le joueur préféré du peuple marocain dans l'équipe nationale marocaine de nos jours?
Oh là là. Difficile, franchement difficile de dire. On parlait d'équipe, on sait qu'il y a de grands joueurs. Et chacun a son petit joueur préféré, ou son grand joueur préféré. Moi, personnellement, c'est cet esprit d'équipe qui me séduit. Mais vous demandez à chacun des Marocains, les uns diront Hakimi, d'autres diront le keeper, l'autre diront le keeper. Bounou, écoutez, Bounou, c'est une... Aujourd'hui, c'est devenu une légende. Les Espagnols, qui sont d'excellents joueurs, ils n'ont pu marquer aucun but. Et le Bounou, qui était l'année dernière le meilleur keeper, le meilleur gardien de but d'Espagne. À l'issue du championnat espagnol, il a eu le prix du meilleur gardien de but d'Espagne. Et aujourd'hui, il l'a démontré. Il a démontré que c'était un gardien de but de classe internationale. Et d'autres, Nasseri, qui était le meilleur de but d'Espagne. Franchement, d'autres, si je les citais un par un, Sabiri qui a fait un travail magnifique, et je suis désolé de ne pas les citer un par un, parce que j'estime qu'ils ont fait preuve je suis désolé de le répéter, mais c'est la réalité, qu'ils ont fait preuve d'un travail d'équipe, et qu'on sent même quand ils jouent ensemble, il n'y en a pas un qui essaie d'avoir le ballon ou de se montrer plus que l'autre. Non, ils s'entraident, ils sont là pour le résultat, ils sont là pour défendre l'équipe, pour défendre les couleurs de l'équipe nationale.
Oui.
Et vous, quel est votre meilleur joueur?
Hakimi, je crois. Donc, monsieur l'ambassadeur, maintenant, parlons de la part du gouvernement marocain. C'est quel type de soutien a été apporté et mis en œuvre pour faire progresser le football national marocain?
Écoutez, je pense que depuis de longues années, hein, le Maroc a toujours été une nation qui aime le football. Nous avons été, en 1970, la première équipe arabo-africaine à aller en Coupe du Monde. Donc, ça fait de nombreuses années que le Maroc suit le football, où il a de très grands joueurs. Mais on n'est jamais allé très, très loin. On est allé jusqu'en huitième de finale une fois, quand on a battu le Portugal. Mais ce qui a été fait ces dernières années, c'est un travail de proximité. Le gouvernement, est sous l'impulsion du roi, qui a senti, enfin, qui sait que le peuple comme, aime ce sport, on a créé des terrains de proximité. Il y a eu plus de 1000 terrains de proximité à travers tout le Maroc, dans tous les quartiers, dans toutes les petites villes, dans toutes les parties éloignées. Il y a des terrains de quartier avec gazon synthétique, avec vestiaire, avec tout le confort qui se doit, et gratuit.
Gratuit.
Et avec ça, plusieurs associations ont créé des écoles de football locales. Tout le monde joue au football. Moi, avant qu'il y ait ces équipes de quatre, ces terrains de football de quartier, moi, je jouais dans la rue. Je jouais avec une petite balle de tennis, on jouait au football avec une petite balle qu'on fabriquait tout seul, nous-mêmes. Mais aujourd'hui, les choses deviennent plus professionnelles. On offre à tous les citoyens des terrains de proximité. On offre des équipements de proximité partout. Nous avons, depuis qu'on est candidat, qu'on a déposé nos candidatures à la Coupe du Monde, nous avons construit de très grands stades aux standards internationaux, aux standards FIFA, et qui sont dans toutes les villes, à Fès, Marrakech, Agadir, Casablanca, Rabat, Tanger, Meknès, Oujda. Dans toutes les grandes villes, nous avons de très grands stades aux standards internationaux. Et donc, il n'y a plus de raison de dire, ah, l'équipement manque. Le gouvernement a fait un grand effort. Et le dernier, et c'est celui-là que je voudrais souligner, c'est nous avons construit, il y a 2 ans, un complexe unique en Afrique et dans les pays arabes. C'est le plus grand complexe d'entraînement et de formation qui a été construit. C'est le complexe Mohamed VI pour le sport. Il a été construit aux proximités de Rabat. Et dans ce complexe, aujourd'hui, toutes les grandes équipes européennes viennent pour les entraînements, viennent pour leur retraite, viennent pour des stages. Et tous les entraîneurs viennent se former là-bas parce qu'il y a également des entraînements, des stages de formation pour les entraîneurs. Et de partout dans le monde, on vient dans ce centre. Pourquoi je dis ça également? Pas pour les Marocains seulement, mais parce que beaucoup de nations en profitent. Et je souhaite de tout mon cœur que l'Indonésie fasse partie des teams, que ce soit l'équipe nationale, que ce soit le team national ou les équipes locales, qu'elles puissent aller là-bas. Parce que non seulement vous avez un high standard, un très grand, très haut standard d'entraînement, de jeu, d'équipement, mais également vous avez la splendeur et la magnificence du Maroc. Vous êtes là-bas dans d'excellentes conditions et j'espère que vous-même, vous pourrez accompagner l'équipe indonésienne et vous verrez qu'est-ce que c'est joli et qu'est-ce que ça vous donne envie de vous entraîner, de suivre vos cours, vos stages et votre retraite. Voilà.
Donc, monsieur l'ambassadeur, peut-être c'est la dernière question. Pour le prochain calendrier des matchs, l'équipe nationale marocaine, les Lions d'Atlas, vont jouer contre l'équipe portugaise en quart de finale. Et comment se passe la préparation de l'équipe, monsieur l'ambassadeur?
Secret. C'est secret. Écoutez, nous avons déjà battu le Portugal en Coupe du Monde. Ils nous ont battu encore. C'est notre troisième match. On a gagné un match. Ils nous ont gagné une autre fois. Aujourd'hui, c'est notre troisième match. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'entraîneur de l'équipe nationale et tous les supporters croient en les chances de l'équipe marocaine. Et ce qui fait que les résultats jusqu'à présent étaient bons, c'est parce que l'équipe et l'entraîneur ont senti que tout le monde croyait en eux et en leurs capacités. Et donc, nous continuerons à croire. Nous sommes en sport, il y a un gagnant, il y a un perdant, mais il y a le sport qui gagne. Nous espérons que le sport continuera à être gagnant et ce sera magnifique si le Maroc gagne et passe au tour suivant. Et les prières également, les prières de tous, musulmans, chrétiens, juifs, de toutes religions, nous acceptons toutes les prières. C'est des prières pour notre équipe nationale également. Je vous remercie de faire vos prières aussi et de supporter l'équipe marocaine. Et franchement, Un grand, grand merci au peuple indonésien. Je l'ai ressenti, j'ai ressenti comment tous les Indonésiens que j'ai rencontrés, même ceux qui ne me connaissaient pas, mais dès qu'ils ont appris, qu'ils apprenaient que j'étais marocain, ils étaient là à me soutenir, à m'encourager, à dire de très positifs sentiments sur l'équipe nationale marocaine. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on aura également l'occasion de soutenir des équipes nationales indonésiennes sur d'autres compétitions d'autres genres. Merci beaucoup. Et merci à Voice of Indonesia, of course, de me donner cette opportunité d'échanger avec mes amis.
Espérons. L'équipe marocaine va être le gagnant.
Inch'Allah.
Toujours. Merci, Inch'Allah. Inch'Allah. Amin. Bon, merci, monsieur l'ambassadeur. Je crois que c'est tout. Notre conversation courte. Bon, chers auditeurs et auditeurs, spectatrices, spectateurs de La Voix de l'Indonésie, c'est tout ma conversation courte avec monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc, son Excellence, monsieur Wadia Ben Abdillah. Merci beaucoup, monsieur. Bon week-end.
Merci à vous. Bon week-end.
À bientôt.
À la prochaine, Inch'Allah.
Inch'Allah. Au revoir.
De Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Thank you. Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voixindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.